l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Et aujourd'hui, on pêche ou pas du poisson pour le manger ou pas. Vous savez qu'un sommet mondial sur l'avenir de l'océan a eu lieu récemment à Brest du 9 au 11 février. Beaucoup de thèmes y ont été abordés, mais les organisations écologistes ont dénoncé l'absence d'un sujet, la surpêche. C'est l'un des sujets sur lesquels nous allons échanger aujourd'hui avec notre invité François Leloc, qui est chercheur en écologie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Comme son nom l'indique, cet institut travaille sur le développement dans le monde entier avec une cinquantaine de chercheurs basés à Brest. Donc notre invité est écologue, il s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes marins. Il y aura aussi du soleil à la clé puisqu'il travaille en Afrique et au Brésil, en Atlantique tropicale. Bonjour François Leloc.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Mais nous sommes ravis. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez-nous rapidement.
Alors ma thématique de recherche consiste à essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins. Donc je travaille essentiellement dans les pays du Sud, comme vous l'avez dit, en Atlantique tropicale. Donc j'essaye en fait, moi, de comprendre l'impact de la pêche et du changement climatique sur l'évolution des écosystèmes marins et sur les pêcheurs.
Donc vous allez pouvoir nous répondre, notamment sur la surpêche. Alors juste pour avoir une idée de la méthode, comment est-ce qu'on peut évaluer des stocks de poissons puisque par définition ils sont sous l'eau, on ne les voit pas?
Et oui, c'est vrai que par rapport au milieu terrestre, où on peut compter assez facilement les animaux, dans le milieu marin, les animaux sont plus difficilement accessibles. Alors, on a deux façons pour essayer de quantifier un petit peu les poissons. La première, ce sont les campagnes océanographiques qui sont réalisées par des scientifiques tous les ans, à la même époque, avec les mêmes engins d'échantillonnage, qui permettent d'avoir une image un petit peu de l'abondance des stocks de poissons. Et puis, il y a une deuxième méthode qui est très importante, c'est ce que capturent les pêcheurs, en fait. Les pêcheurs sont obligés de remplir des fiches de pêche ou des journaux électroniques dans lesquels ils renseignent en fait leur capture. Et donc avec ces deux types de données, on fait tourner des modèles mathématiques qui nous permettent d'estimer en fait les abondances des différents stocks.
Alors là, je vais vous poser des questions évidemment moins pour votre secteur que pour plutôt le secteur atlantique nord-ouest, enfin, je ne sais pas celui qui nous concerne en tout cas, Même vous pouvez me répondre au niveau mondial quand même, c'est quelles sont les espèces de poissons déjà les plus menacées?
Alors, je vais peut-être vous répondre au niveau local qui va peut-être intéresser un petit peu plus vos auditeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a à peu près 50% des stocks métropolitains, en France métropolitaine, qui sont durablement exploités. Alors 50%, c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Il faut savoir qu'on part d'il y a 20 ans, on était à peu près à 10-20% des stocks qui étaient bien exploités. Donc il y a une tendance à l'amélioration de la gestion des stocks qui est assez remarquable. Néanmoins, évidemment, la politique commune des pêches, qui régit un petit peu la gestion des stocks de poissons, visait 100% des stocks gérés durablement à l'horizon 2020. Donc vous voyez qu'on n'y est pas. Néanmoins, la tendance sur le long terme est quand même plutôt positive. Et cet effort est assez remarquable.
Et donc ça, c'est vrai pour l'Atlantique Nord, en gros.
Enfin... Ça, c'est vrai pour les stocks européens en général. Et pour la France, les stocks de France métropolitaine, oui, c'est particulièrement vrai.
Ceci dit, nous, Français, on consomme, j'imagine, des espèces du monde entier, en fait.
Absolument. Il y a plus de la moitié des poissons que nous mangeons en France qui viennent d'ailleurs qu'en France.
Et là, vous diriez que c'est la surpêche, elle est comment, justement, si on veut avoir une vision globale du monde
C'est assez difficile de répondre à cette question, parce qu'effectivement, il y a énormément d'espèces qui sont exploitées. Hein. Il y a plus de 800 espèces qui sont exploitées pour la pêche dans le monde. Donc il y a des différences qui sont locales et voilà, en Europe, on est sur une tendance plutôt positive. C'est vrai que sur d'autres continents, les tendances sont plus difficiles à évaluer parce qu'on a moins de recul et on a moins de données scientifiques qui nous permettent de caractériser l'état des stocks. Donc cette question est extrêmement compliquée. Les scientifiques font énormément de travaux de recherche pour essayer justement d'améliorer la connaissance des espèces et la connaissance des stocks.
Et quand on dit qu'une espèce n'est pas pêchée durablement, est surpêchée, c'est quoi les critères en gros?
En fait, ça veut dire qu'on pêche dans le stock plus que ce que le stock ne peut produire en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne permet pas au stock d'augmenter sa biomasse qui sera ensuite pêchée. Donc, on est sur une surexploitation, c'est-à-dire qu'on pêche plus que ce que produit le stock. Voilà.
Alors, j'imagine qu'il y a différentes raisons, en fait, pour que ce stock ait du mal à se renouveler. Enfin, ça peut être la biologie du poisson, ça peut être la technique de pêche. Enfin, j'imagine qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte.
Absolument, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte dans la survie des espèces. Évidemment, il faut qu'il arrive à se reproduire, il faut que le poisson puisse se reproduire, donc que les conditions environnementales soient bonnes, que la nourriture pour le poisson soit suffisante. Donc il faut qu'il puisse se reproduire et grandir dans des bonnes conditions. Et puis il faut également que la mortalité, qu'elle soit naturelle, via le jeu de la prédation, les relations proie-prédateur, les gros poissons qui mangent des petits poissons. Et puis la mortalité par pêche, il faut que ces deux mortalités soient faibles pour que le stock puisse rester à un niveau durable, voire augmenter.
Puis, il y a d'autres facteurs dont on parlera un petit peu plus loin dans l'émission. Alors, les espèces, revenons déjà sur les espèces les plus menacées chez nous, enfin celles dont on a constaté que les populations s'étaient effondrées.
Alors, il y a plusieurs espèces qui sont actuellement dans un état qui n'est pas bon. Hein. Je pense par exemple à la sardine du golfe de Gascogne qui a vu sa biomasse diminuer au cours des dernières années. Il y a également la sole du golfe de Gascogne, sur laquelle on a vu un quota important qui a diminué de façon importante cette année. Et puis, il y a également une espèce emblématique, hein, le cabillaud ou la morue, qui est une espèce qui a été beaucoup pêchée par le passé et dont on voit maintenant les abondances fortement diminuer, notamment dans les eaux françaises.
Et alors moi, j'étais étonnée de voir ça parce que voilà, je pensais que le cabillaud allait mieux. J'avais lu quelque part quoi, que le cabillaud se portait mieux.
Alors, en Europe, il y a plusieurs stocks de cabillaud. Il y a des stocks qui sont au niveau de la Norvège qui, eux, vont effectivement plutôt bien. Et puis, on a les stocks qui sont plutôt en Manche, mer du Nord, qui, eux, sont soumis à plusieurs perturbations. Évidemment, la pêche, mais également le changement climatique. Le cabillaud, c'est une espèce d'eau froide. Et on voit que le changement climatique donc, a pour conséquence d'augmenter la température de l'eau. Et donc, le cabillaud ne se retrouve plus dans un habitat, dans une zone de température qui lui convient. Donc, la pêche plus le changement climatique conduisent à une diminution du stock.
Et on arrive à faire la part de qu'est-ce qui a le plus d'impact d'ailleurs entre la pêche ou le changement climatique ?
C'est assez compliqué de savoir ça. On essaye de travailler là-dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cabillaud, il n'est pas tout seul dans son environnement. Il a des proies, il a des prédateurs. Il a des proies quand il est gros et même quand il est petit. Et puis, il a des prédateurs, surtout quand il est petit. Et évidemment, le changement climatique impacte le cabillaud, mais il impacte toutes les autres espèces également. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est comment vont évoluer ces espèces avec le changement climatique et quelles vont être les nouvelles interactions, notamment les interactions proie-prédateurs, de ces nouvelles espèces qui vont se retrouver en présence alors que certaines n'étaient pas jusqu'à présent en présence. Et ce changement climatique, il a également une influence importante sur la saisonnalité. On voit que les saisons, on dit souvent que les saisons sont décalées ou ça change, c'est également vrai en milieu marin. On peut avoir des décalages dans les efflorescences phytoplanctoniques et dans le zooplancton. Et ce phytoplancton, ce zooplancton, ce sont les proies des juvéniles de cabillaud.
Donc c'est des microscopiques plantes, enfin algues, c'est ça en général ?
Voilà, le phytoplancton, c'est une algue microscopique.
Et c'est ça qu'ils mangent.
Et le zooplancton, c'est plutôt le zooplancton que mangent les juvéniles de cabillaud. Et ce zooplancton, il a besoin du phytoplancton. Mmh. Et donc, si effectivement la base de la chaîne alimentaire elle est modifiée, eh bien, ça aura des conséquences en cascade sur l'ensemble du réseau trophique, de la chaîne alimentaire, et donc des espèces qui se trouvent en haut de ce réseau trophique.
La sole, par exemple, qui aussi est en mauvaise santé, on sait pourquoi
Alors, on estime pour la sole que c'est plutôt lié à l'environnement, en fait. Donc, c'est plutôt des mauvaises années de reproduction de la sole ces dernières années qui ont conduit à une diminution en fait, de la biomasse, de l'abondance de la sole dans le golfe de Gascogne. Donc, c'est moins la pêche que l'environnement.
Mmh. Et on n'a pas trop insisté sur les techniques de pêche. Est-ce que vous, chercheurs, vous avez pu prouver que certaines techniques de pêche étaient vraiment délétères pour des espèces ?
Alors, ce qu'il faut... Il faut peut-être commencer par dire que les techniques de pêche, elles ont évolué et il y a un gros travail des professionnels, des marins-pêcheurs, pour justement faire évoluer cette technique de pêche, pour justement aller vers plus de sélectivité. C'est-à-dire pour essayer de capturer les espèces qui sont des espèces cibles pour eux. Et notamment pour permettre la fuite ou l'échappement des juvéniles de certaines espèces de poissons ou de langoustines, par exemple, dans le golfe de Gascogne. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus, mais c'est vrai que certaines techniques de pêche, comme le chalut par exemple, sont des techniques qui sont peu sélectives et donc qui ont tendance à capturer une grande diversité d'espèces et à engendrer des rejets, donc des poissons qui sont capturés mais qui ne sont pas commercialisables et donc qui sont rejetés à l'eau. Et donc forcément, c'est quelque part une espèce de gâchis.
Alors, on l'a dit, en France, en gros, il y a 50% d'espèces de poissons qui sont pêchées durablement. Alors, c'est le 50% d'espèces, c'est ça, c'est pas 50% des effectifs.
Hein, c'est 50% globaux. Des stocks, en fait.
Des stocks, ah, d'accord. Donc, c'est toute espèce, enfin, c'est pas forcément c'est 50% espèces, des espèces.
C'est les espèces exploitées.
D'accord. Et il y a une différence entre, enfin là, je sais pas, entre Méditerranée et Atlantique, on n'a pas mentionné la Méditerranée, mais bon.
Oui, absolument. Il y a une grande différence entre l'Atlantique et la Méditerranée. La Méditerranée, depuis plusieurs années, a des stocks qui sont en très mauvais état. Alors évidemment, le fonctionnement de la mer Méditerranée, qui est une mer fermée, et de l'océan Atlantique, qui est ouvert, sont très différents. En plus, la mer Méditerranée est une mer qu'on appelle oligotrophe, donc peu productive. Voilà, le fait de pêcher, ça, forcément, ça va diminuer beaucoup plus fortement les stocks. Donc, les stocks en Méditerranée sont, pour la plupart, en mauvais état.
Oui, quelles que soient les espèces, quoi. En
fait. À l'exception du thon rouge, quand même, qui est une exception notable. On a beaucoup parlé par le passé du thon rouge qui était surexploité. Et c'est vrai que depuis environ une dizaine d'années, on voit que le stock de thon rouge se reconstitue, notamment grâce aux efforts de gestion qui ont été très importants et qui ont permis justement à ce stock de remonter, en fait.
Et puisqu'on est dans les espèces qui vont bien, sinon en Atlantique, c'est quoi les espèces qui vont mieux, par exemple,
ouais. Ce qui va nettement mieux dans le golfe de Gascogne, c'est le merlu, par exemple. Le merlu qui était, il y a une dizaine d'années, dans un état moyen, est maintenant dans un état qui est plutôt bon. On peut aussi parler du maquereau. Le maquereau est une espèce, un stock en tout cas, qui se porte bien. Et des stocks qui se portent très bien, par contre, ce sont les coquilles Saint-Jacques. En Manche, que ce soit en baie de Seine ou en baie de Saint-Brieuc, on est plutôt sur des abondances très importantes ces dernières années.
Et pas en rade de Brest, la coquille, en tout cas.
Alors, ouais. Le problème de la rade de Brest, c'est qu'il y a beaucoup d'ensemencement aussi, avec les closeries du Tinduf, hein, qui permet d'ensemencer en juvénile de coquille Saint-Jacques. Donc, là, c'est plus exactement des espèces 100% sauvages. En fait.
Oui, c'est ça. Mmh. Et donc ça, c'est les espèces qui vont mieux. Les espèces qui n'ont en gros pas bougé, ce qu'il y en a, celles qui ont...
En fait, les stocks, ils évoluent constamment liés à l'environnement, bien sûr, liés aux interactions proie-prédateurs. Hein. On peut penser que si on a beaucoup de merlus, par exemple, on aura moins de sardines, puisque les merlus mangent les sardines. Donc c'est extrêmement dynamique. Et c'est ça qui est difficile, évidemment, puisque les conditions environnementales, les conditions climatiques, elles changent d'une année sur l'autre. On n'a pas les saisons qui arrivent exactement au même moment. Donc c'est assez difficile d'estimer comment vont évoluer les stocks dans un milieu marin qui est un milieu extrêmement complexe, où il y a de multiples interactions avec l'environnement et avec les différentes espèces.
Ouais, je ne sais pas si d'ailleurs le rapport, voilà, là c'est le rapport du GIEC qui est sorti, encore un rapport du GIEC qui est sorti, mais il y a aussi son équivalent sur la biodiversité, la l'IPPES.
Oui, absolument, oui.
J'imagine qu'il s'intéresse aussi aux poissons et aux espèces marines.
Oui, tout à fait. Oui. Il montre d'ailleurs, ce rapport de l'IPPES, que la pêche a un impact significatif, hein, sur la biodiversité des poissons notamment.
D'accord. Alors, les impacts, on en a parlé un petit peu du changement climatique, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais est-ce que vous pouvez reprendre l'explication, c'est comment est-ce que ce changement climatique peut avoir un impact sur les poissons en général?
Alors, les poissons sont des animaux qui ont ce qu'on appelle un sang-froid, donc ils sont adaptés à une certaine température de vie. Et quand la température change, notamment sous l'effet du changement climatique, eh bien, les poissons ne vont plus être dans une bonne enveloppe thermique, on va dire. Donc, ils vont être obligés de bouger, donc de migrer. En fait, un des premiers effets du changement climatique, ce sont les migrations des poissons. Alors, on le voit avec l'arrivée d'espèces du Sud, hein, des espèces qui étaient en Espagne, au Portugal, voire au Maroc, qui arrivent ou qui vont arriver sur les côtes atlantiques françaises. Et puis, il y a également des espèces qui étaient sur les côtes atlantiques françaises qui vont migrer plus vers le nord. C'est typiquement le cas du cabillaud, qui va progressivement disparaître de la Manche pour aller en mer du Nord et puis monter jusqu'en Norvège et même peut-être au-delà.
Et les espèces du Sud qui montent, c'est quoi, par exemple ?
Il y a plusieurs espèces qu'on a vues apparaître ces dernières années, hein, notamment des dorades qui étaient peu présentes par le passé. Et puis, on peut penser qu'au niveau des poissons pélagiques, on va voir arriver des sardinelles, hein, ce qui ressemble à nos sardines, mais qui sont des sardines du Sud. Donc voilà, un grand changement. Une étude récente, en 2020, a montré que on aurait de 10 à 20% de remplacement à l'horizon 2100 des espèces de poissons dans le golfe de Gascogne.
Ça va, est-ce que ça va supposer pour les pêcheurs des adaptations
Alors,
question subsidiaire, là, oui, sociale.
C'est une très bonne question. Les pêcheurs s'adaptent extrêmement vite. On l'a vu l'année dernière avec l'arrivée du poulpe, le retour du poulpe sur nos côtes.
Voilà, vous devancez mes questions. Très.
Et on a vu que les pêcheurs ont changé leur pratique pour cibler le poulpe, et ça s'est fait en quelques semaines. Donc les pêcheurs, évidemment, ils arriveront sans problème à s'adapter aux nouvelles espèces qui vont arriver.
Et justement, cette prolifération du poulpe, typiquement, elle est liée à quoi
Alors, il y a des études qui ont commencé cette année et puis en fin d'année dernière pour essayer de comprendre. Alors, le poulpe, c'est une espèce qu'on retrouvait déjà sur les côtes bretonnes hein, il y a 30, 40, 50 ans. C'est une espèce qui a un cycle de vie court, donc qui peut se reproduire très vite et proliférer très vite et puis disparaître assez rapidement également. Alors pourquoi est-ce que le poulpe il est réapparu? Alors il y a certainement des effets environnementaux, hein, des effets de température, et il y a également, on pense, des effets de nourriture. On l'a vu ces dernières années, le retour des crustacés, notamment des langoustes en Bretagne, et voilà, les poulpes pourraient consommer des langoustes, et donc ça pourrait être une des raisons de la prolifération des poulpes, la disponibilité de nourriture.
Et alors, ce n'est pas des poissons, mais les méduses, on dit qu'elles prolifèrent particulièrement, enfin partout dans le monde d'ailleurs, je crois.
Alors, en fait, quand on pêche, évidemment, on va diminuer le nombre de poissons dans la mer. Et le fait de diminuer le nombre de poissons dans la mer, bah, ça va laisser de l'espace pour d'autres espèces, notamment les méduses, qui ont proliféré dans les zones où il y avait une forte surexploitation. Donc ce sont des espèces qui sont en compétition évidemment avec les poissons, notamment pour la nourriture. Et quand on diminue le nombre de poissons, eh bien on peut voir d'autres espèces qui vont prendre la place, et c'est notamment le cas des méduses.
Et puis les espèces, j'imagine qu'à l'inverse, les espèces dépendantes, enfin c'est pas exactement votre partie, mais les mammifères qui consomment des poissons, les mammifères marins, eux, sont menacés du coup.
Et oui, ce qu'on essaye de comprendre, et ce sur quoi on essaie de travailler, c'est l'ensemble des interactions hein, qui vont du phytoplancton jusqu'aux mammifères marins, jusqu'aux oiseaux, mais également jusqu'aux pêcheurs. Donc évidemment, on essaye de comprendre la quantité de poissons que peuvent manger les mammifères marins. On avait montré il y a une dizaine d'années dans le golfe de Gascogne que les dauphins, les mammifères marins, consommaient autant de poissons que ce que pêchaient les pêcheurs pour certaines espèces. Donc voilà, effectivement, on peut penser qu'il y a une certaine concurrence en fait, entre les pêcheurs et les mammifères marins.
Mmh. Alors, on a parlé de la surpêche, de quantité de poissons, de changement climatique aussi, mais manger du poisson, bon, c'est réputé bon pour la santé. Et vous travaillez aussi, vous, en tout cas au Brésil et en Afrique, sur les pollutions qui affectent les poissons. Alors, ouais. Quels sont-ils, ces polluants, déjà?
Alors, bon, déjà, je voulais rappeler qu'effectivement, manger du poisson, c'est bon pour la santé, parce qu'on y trouve notamment des oméga-3 qui sont indispensables. Et les oméga-3, l'homme ne les produit pas. Donc, on est obligé de les avoir dans notre alimentation.
C'est surtout les poissons gras, non? C'est ça?
C'est surtout dans les poissons gras, effectivement. Donc, les sardines, les anchois, etc. Le saumon. Et effectivement, le poisson, c'est aussi important comme source de protéines. Et puis, ça peut également apporter des vitamines qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est important de manger du poisson. Mais effectivement, le poisson, il peut être contaminé. La mer, c'est le réceptacle, évidemment, des pollutions terrestres. Et en fonction des écosystèmes dans lesquels on va pêcher nos poissons, on peut avoir des contaminations qui sont plus ou moins importantes. Alors moi, je travaille actuellement dans l'Atlantique tropical, et que ça soit côté Afrique ou côté Brésil, c'est vrai qu'on a des contaminations au mercure, par exemple, hein, liées à l'orpaillage. Donc l'orpaillage qui se passe à terre, évidemment, pour nettoyer en fait le sédiment, enfin pour trouver de l'or, ils ont besoin de beaucoup d'eau, donc et ils utilisent du mercure pour agréger l'or, et ce mercure se retrouve dans les cours d'eau qui ensuite vont arriver en mer. Et donc dans certains estuaires, même en mer, on peut trouver des quantités de mercure qui sont relativement importantes dans certaines espèces de poissons liées justement aux activités terrestres. Mais il y en a évidemment plein d'autres, hein, évidemment les pesticides qui sont déversés évidemment par l'agriculture peuvent également impacter beaucoup les poissons, je pense notamment en Méditerranée, hein, qui est une mer fermée et qui reçoit évidemment beaucoup de pesticides, et donc où on a des poissons qui sont potentiellement plus contaminés que dans l'Atlantique.
On parle aussi beaucoup du plastique. Est-ce que les poissons ingèrent le plastique? Oui, mais est-ce que nous, on l'ingère indirectement, du coup?
Ben oui, voilà, c'est ça. Effectivement, comme les poissons mangent ce qui se trouve dans l'eau, dont ouais. Du plastique, eh bien, nous, quand on va manger le poisson, on va également avoir une certaine quantité de plastique qu'on va ingérer.
Et quelles sont les espèces alors qui accumulent le plus les polluants, de ce que vous avez constaté en tout cas ?
Alors, c'est très polluant dépendant, je dirais. Ça dépend beaucoup des polluants. Alors, comme je vous l'ai dit, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont plus contaminées, des zones qui sont moins contaminées. Ça dépend également de la place du poisson dans la chaîne alimentaire. S'il est tout en haut, il va bioaccumuler. Donc, il sera potentiellement plus contaminé pour certains contaminants. Il y a également l'âge du poisson. Si on a des gros poissons, des vieux poissons, eh bien, ils vont aussi accumuler sur plus longtemps des contaminants. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'aquaculture et la pêche en milieu naturel. Hein. Évidemment, l'aquaculture se produit plutôt à proximité des côtes. Les poissons d'aquaculture, en plus, on leur donne des médicaments pour qu'ils soient en bonne santé, notamment des antibiotiques hein, pour certains. Donc évidemment, tout ça, ça va également contaminer, en quelque sorte, également les poissons.
Oui, parce qu'il y a plus de polluants près de, sur le littoral, voilà, quoi, logiquement.
Voilà, et après, ça se dilue, ça arrive par les rivières, ça se concentre près du littoral, et au fur et à mesure où on s'éloigne de la côte, évidemment, les polluants vont diminuer.
Donc les poissons les plus riches en oméga-3, qui sont des poissons plutôt carnivores, enfin des poissons gras, c'est ça, sont aussi potentiellement concentrent plus de polluants.
Ça dépend des polluants, et tous les ce qu'on appelle les polluants organiques persistants qui viennent des pesticides, des herbicides, eh bien, ceux-là, ils ont tendance à s'accumuler dans la matière grasse, dans les graisses. Et donc, évidemment, les poissons qui sont riches en oméga-3 peuvent aussi potentiellement être riches en contaminants. Mmh. En tout cas, plus que des poissons blancs, on va dire, plutôt maigres.
Ouais, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger, alors, du coup
Eh bien, c'est toujours la même réponse, hein, en fait. Il faut manger un peu de tout. Donc, il faut à la fois manger des poissons gras, mais aussi des poissons maigres.
Alors, oui, justement, il y a aussi la question que je me posais. Il n'y a pas les oméga-6 qui interviennent
oui,
aussi dans la...
Oméga-3, oméga-6, oui, tout à fait.
Et là, ce n'est pas les mêmes poissons qui fournissent des oméga-3
si,
ou
si,
des...
Si, ce sont les mêmes.
D'accord. Donc, si on récapitule, les espèces qui sont les moins menacées par la surpêche, donc ça serait plutôt le merlu, le poulpe...
Le poulpe actuellement, oui, absolument. Mais finalement, le poulpe, il n'est pas beaucoup mangé par les Français. Il est beaucoup exporté chez nos voisins espagnols et portugais.
Oui, mais va falloir s'y mettre. Hein.
Absolument.
Voilà. Quoi d'autre comme espèce
Alors, en Manche-Mer du Nord, il y a le hareng, par exemple, hein, qui est une espèce qui est plutôt bien gérée. Toutes ces espèces, elles sont quand même gérées de façon assez forte. Hein, et donc, c'est le fait qu'il y ait une bonne gestion qui permet justement à ces stocks d'être exploités durablement, en fait.
Et le hareng n'est pas trop pollué quand même en Atlantique Nord, en tout cas ?
Non.
Bon. Donc...
Oui, il y a quand même pas mal d'espèces qu'on peut consommer. Hein. Je vous dis, plus de 50% des stocks sont plutôt en bon état en France métropolitaine.
Oui, mais alors, en bon état de pêche durable.
D'exploitation, tout à fait.
Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a la question de l'intérêt nutritionnel ou du...
Oui, alors en France, on a quand même des organismes qui contrôlent le taux de contamination des poissons. Donc les poissons qui sont vendus, évidemment, ils sont propres à la consommation. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Ah oui, on mesure. Non, on ne mesure pas systématiquement les polluants.
Alors, on ne mesure pas sur tous les poissons, bien sûr, mais il y a énormément d'études qui sont faites par l'ANSES, hein, qui est un organisme indépendant qui justement traite de cette contamination des poissons. Donc, c'est vraiment surveillé. Il n'y a pas de problème de consommation des poissons en France.
Un polluant qui me revient à l'esprit, c'était, dont on parlait beaucoup, c'était les dioxines.
Oui, absolument. C'est un polluant organique persistant. C'est un problème qui était très important, notamment dans les cours d'eau français. Hein, le Rhône, par exemple, la consommation de poissons dans le Rhône, par exemple, est interdite, justement liée à ces excès de PCB, dont les dioxines, hein, qui sont évidemment nocifs pour la santé humaine.
Donc là, c'est lié à l'industrie plutôt, quoi.
Absolument, c'est oui, ça. C'est complètement lié à l'industrie, aux différents types d'industries. Et évidemment, le Rhône se déverse en Méditerranée, par exemple. Donc, on n'a pas forcément intérêt à manger trop de poissons de Méditerranée, en tout cas proche de l'embouchure des grands fleuves.
Et oui, justement, c'est intéressant. Enfin, vous vous occupez des espèces marines, mais il y a des espèces qui font le lien entre l'eau douce et l'eau salée. Vous, oui. Vous les suivez particulièrement ou comme les autres ?
Alors, on a des espèces d'intérêt, comme le saumon, par exemple, qui passe une grande partie de sa vie en milieu marin et qui remonte les fleuves, les rivières pour se reproduire. On a des espèces comme l'anguille qui, au contraire, vivent plutôt en eau douce et qui vont se reproduire en milieu marin. Donc, on est toujours sur cette complexité de fonctionnement des écosystèmes marins qui sont interconnectés, pour certains, avec l'eau douce. Donc, moi, je travaille aussi sur les estuaires qui sont vraiment des zones d'interface entre l'eau douce et l'eau marine. Et ces estuaires, ils accueillent beaucoup de juvéniles donc de petits poissons, d'espèces qu'on va pouvoir pêcher quand elles seront en mer. Comme par exemple les soles, les petites soles se trouvent dans les estuaires. Donc c'est évidemment très important de préserver ces milieux d'interface, donc de limiter la contamination évidemment, qui va permettre une meilleure survie des juvéniles et donc d'avoir des stocks qui vont pouvoir grossir de façon intéressante.
Alors vous partez je crois au Gabon dans un mois, qu'est-ce que vous allez faire ?
Absolument, alors moi actuellement je travaille beaucoup avec les partenaires gabonais, donc on travaille notamment sur le rôle des mangroves pour la pêche. Ces écosystèmes de mangroves qui sont des écosystèmes là aussi d'interface qu'on peut retrouver dans les estuaires, ce sont des écosystèmes qui abritent beaucoup de petits poissons, parce que ces petits poissons peuvent trouver à la fois un refuge et de la nourriture. Et ces petits poissons, après un an ou quelques mois, vont pouvoir retourner en mer et grandir en mer et pouvoir être pêchés, notamment par les pêcheurs artisans. Donc il y a évidemment en Afrique des problèmes liés à l'urbanisation, à la démographie. Et donc il y avait jusqu'à présent une tendance plutôt à couper les mangroves pour pouvoir justement créer de l'habitat. Et donc ça avait pour conséquence forcément de diminuer les stocks de poissons, puisque les juvéniles ne pouvaient plus venir grandir près des côtes. Et on travaille justement à Libreville, donc la capitale du Gabon, pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement des écosystèmes à mangroves autour de cette capitale.
Eh bien, on vous souhaite d'avance un bon voyage, François
Leloc.
Et merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci.